poser une autre question d'éclaircissement ou de réflexion ou de... Oui, Edouard.
Merci beaucoup pour ces clarifications et ces inspirations. Je voulais vous demander à propos de la personne humaine. Vous d'après le Persisi Ulas, les deux modes d'existence, donc d'une part l'existence biologique, qui est celle, on pourrait dire, de la créature naturelle, et de l'autre côté, l'existence ecclésiale. Est-ce que cette manière de voir au niveau, on pourrait dire, de l'humanité actuelle ne pose pas des questions éthiques? Parce que on pourrait dire, voilà, une existence biologique, quelle est sa dignité, quelle est sa valeur par rapport à une dignité ecclésiale où c'est vraiment alors la personne dans son union avec Dieu. Est-ce que au niveau, on va dire, social, éthique, cette différence ne peut pas devenir assez, je dirais, difficile, notamment au niveau des droits de l'homme?
Quand même encore une ou deux questions. Ici, Thierry.
Peut-être pour donner un élément de réponse, c'est de voir comment ce qui s'accomplit dans l'Eucharistie reflue d'une certaine manière sur l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on peut dire que Moïse était déjà une personne alors qu'il n'a pas eu d'expérience eucharistique?
La troisième, je vais poser ma propre question. Ça va un peu dans le sens, là, de ce que vient de dire Thierry. Vous avez fait une toute petite remarque à la fin, en disant que ce souvenir de ceux qui nous avaient précédés, qui avaient traversé la mort, ce n'était pas qu'un souvenir psychologique. C'était un acte ontologique. Alors ça m'intéresse pas mal. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas là, justement, aussi, comme Thierry vient de le montrer, entre Ancien et Nouveau Testament, une communion entre l'Église de la terre et l'Église du ciel, et qu'en effet, il ne s'agit pas simplement, lorsqu'on se souvient de nos prédécesseurs dans la foi, dans la prière, hein, eh bien, il y a là vraiment quelque chose qui se réalise, une communion qui se réalise.
Merci. Les trois questions. Oui. Donc, j'espère que vous n'attendez pas un exposé philosophique, théologique de ma part. Dans deux minutes, ce n'est pas possible, mais je peux vous dire que ce sont des questions extrêmement importantes pour la réflexion théologique. Ici, vous comprenez bien, il y a la tradition d'une formation, d'une éducation de théologie occidentale qui doit être en dialogue avec la théologie orientale. Et ce que je vous ai proposé était la pensée des pères orientales qui n'avaient pas une formation philosophique scolastique, disons. Et ça, c'est important de le dire par rapport à la question de la morale, de l'éthique. Je ne peux pas développer toute la réponse, mais je peux vous dire que pour les pères de l'Église, ce n'est pas important de dire on passe à travers une expérience ascétique telle et telle, on fait premier mot, deuxième mot, etc. Ça, et ce sont des marches pour avancer. Non, ça c'est étranger à la pensée patristique grecque. Parce que c'est l'étonnement, le miracle d'une révélation d'une expérience qui ne peut pas être comptée par une méthode 1, 2, 3, mais c'est ce que Saint Jean Chrysostome dit à son homélie de la Pâque, de la fête de Pâques. Même ceux qui arrivent 5 minutes avant la fin est accueilli comme celui qui a commencé depuis sa naissance. Et c'est un miracle plutôt qu'une procédure morale. Ça ne veut pas dire que l'ascèse n'a pas une place importante dans la vie spirituelle. Pour l'Ancien Testament, ça c'est intéressant de suivre l'histoire de la pensée patristique. Il y a des pères de l'Église qui donnent une réponse très claire sur ce point que vous avez posé, que certainement Moïse n'avait pas la même possibilité, la même occasion comme Saint Jean Chrysostome, disons, comme ceux qui ont participé à l'expérience eucharistique. Mais ce n'est pas vraiment un raisonnement, disons, une conclusion théologique de jugement, jamais. Ça, c'est étrange à la pensée patristique. Ce n'est pas un jugement, c'est l'étonnement, de nouveau, d'une expérience nouvelle qui n'était pas là dans le temps de l'Ancien Testament. C'est ça que le Christ nous a offert. C'est ça la nouveauté. Et le renouvellement requiert certainement l'incarnation. Et les pères s'intéressent exactement à développer la théologie de l'incarnation. Mais ils ont exprimé plusieurs fois le respect aux personnalités de l'Ancien Testament, comme Moïse et les prophètes, sans doute. Ontologie, eschatologie, ça, vous comprenez de nouveau, la psychologie appartient à la nature. L'ontologie appartient à cette réalité qui nous est offerte par le Christ. Et vous comprenez, psychologie signifie que nous étudions les lois de la nature. Mais l'ontologie, pour les pères grecs, donne et souligne l'aspect dynamique du devenir, comme Zizioulas a bien clarifié. Un devenir qui requiert une disposition, un choix intérieur, mais aussi une révélation, une force d'en haut, comme le dit Saint Jean l'Évangéliste. Et c'est ça la différence entre la nature et la personne. La personne qui révèle la présence du Christ dans le monde. Merci.